Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Edouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Après avoir regardé cette façon dont Jésus accomplit les Écritures dans sa passion, sa mort et sa résurrection, le catéchisme, au paragraphe 602, donne un petit temps sur cette expression « Dieu l'a fait pécher pour nous ». Pour moi, évidemment, je pense à cette phrase « Dieu s'est fait homme semblable à nous en toute chose, excepté le péché ». Mais nous allons dire, si c'est accepter le péché, comment a-t-il pu nous sauver du péché? Mais il y a cette mention dans la deuxième lettre aux Corinthiens, Dieu l'a fait péché pour nous, lui qui n'avait pas connu le péché, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Mais alors comment entendre cette phrase, Dieu l'a fait péché pour nous, ce Jésus que nous avions crucifié?
Alors c'est vrai que si je le prends cette expression d'une manière trop littérale, sans interprétation, je pourrais croire que Dieu l'a fabriqué péché. Péché, c'est le substantif de la faute, ce n'est pas le verbe péché. Dieu l'a fait péché, c'est le substantif donc de la faute et le substantif de la faute. Et qu'est-ce que cela peut vouloir signifier? Eh bien, il faut comprendre que saint Paul parle souvent à des juifs d'origine, et le mot « faire ainsi pécher » peut renvoyer dans des expressions juives au sacrifice pour le péché. Et c'est ainsi d'ailleurs que l'enseigne le concile de Tolède, le 11e concile de Tolède. Il faut interpréter cette parole « Dieu l'a fait pécher pour nous » par « Dieu l'a fait sacrifice pour le péché ». Car le mot, si vous voulez, péché avait fini par avoir des espèces de consonances dans le langage quotidien des Juifs, et saint Paul l'utilise. Nous avions déjà utilisé le mot « hypallage ». L'hypallage, ce sont des formules concentrées. Et c'est délicat pour nous de les développer de nos jours, parce que nous n'avons plus la même habitude de langage. Et il faut comme aller à pas, je dirais, lent pour considérer ces expressions, sinon on risque de se tromper, comme d'ailleurs l'a fait au XVIe siècle la réformation protestante, où on a cru que Dieu s'était transformé, si vous voulez, comme une sorte d'hameçon qu'on aurait donné à manger au diable, et le diable aurait mangé l'hameçon parce que Dieu aurait transformé son fils en une espèce d'appât, et qui serait en fait le péché. Et vous voyez, ce sont des expressions donc extrêmement dangereuses à utiliser quand on ne comprend pas leur véritable signification, qui est sacrificielle. Dieu l'a fait pécher pour nous, c'est une expression de sacrifice. Lui qui n'avait pas connu le péché, d'ailleurs, est affirmé très bien ce que tu disais, en rappelant que Dieu s'est fait semblable à nous à l'exception du péché. Donc c'est bien redit aussi dans 2 Corinthiens 5, donc il n'y a aucune ambiguïté dans l'expression, mais il faut le comprendre donc comme une synecdoque, une sorte de résumé de ce que saint Paul utilisait peut-être couramment en milieu juif, parce qu'il fallait comprendre que Dieu s'est fait solidaire de nous pécheurs. Comme dit un peu plus loin le 603, Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, ajoute Romains 8, 32. C'est une affaire d'amour. Livré pour nos péchés, Et saint Paul dira dans les Galates, « Il m'a aimé, il s'est livré pour moi ». C'est donc bien l'amour qui est au cœur de ce mouvement de notre Seigneur Jésus qui accepte de porter les péchés du monde, de porter la peine conséquente de la faute. Hein, cette peine qui doit être expiée par un sacrifice expiatoire. Jésus donc satisfait, expie en quelque sorte le péché jusqu'au bout par cette solidarité extraordinaire. Donc par derrière, il faut toujours voir remonter au geste d'amour de Dieu qui, c'est vrai, opère une certaine substitution. C'est au 615 qu'on utilise l'expression « Jésus substitue son obéissance à notre désobéissance », c'est-à-dire il prend sur lui la peine de la désobéissance de l'homme qui aurait été trop lourde pour nous. Jésus, dit le texte, a accompli la substitution du serviteur souffrant qui offre sa vie en sacrifice expiatoire. Et il le fait avec une miséricorde tellement plus grande qu'il arrive à dépasser même ce que nous aurions dû payer, je dirais, en justice par rapport à notre faute. Il le fait dans une infinité, puisqu'il est le Verbe de Dieu, et le Verbe de Dieu est Dieu lui-même. Et donc, il le fait avec une infinie générosité. Ce qui fait que ce qu'on appelle la satisfaction vicaire, donc la substitution pénale que Jésus opère en acceptant de payer pour nous, payer de sa personne, c'est quelque chose un geste d'amour. Il faut toujours remonter ça à un geste d'amour, mais qui satisfait la justice d'une manière infinie. Jésus n'a pas manqué à la justice. Dieu est juste, Dieu est amour, c'est vrai, mais Dieu est aussi toute justice. Et donc, il fallait quelque chose qui soit de l'ordre de la justice pour être pleinement conforme à Dieu.
Mais l'homme ne pouvait pas répondre à ça.
Ne pouvait pas répondre à cela.
Ouais.
Il fallait un Dieu, il fallait un médiateur qui soit infiniment plus grand que nous et qui puisse à la fois être de nous, de notre race, comme dira l'Épître aux Hébreux. Il est vraiment de notre race, mais en même temps Dieu, Dieu éternel, pour pouvoir pousser en quelque sorte cette satisfaction jusqu'au bout dans un élan qui puisse réparer pour les péchés du monde entier, comme dira la première épître de saint Jean. Pas seulement pour ceux de l'ancienne alliance, comme c'est déjà certainement le cas, avoir réparé pour tous les péchés de l'ancienne alliance, mais les péchés même de ce qui allait advenir dans le futur. C'est extraordinaire de penser que l'infinité de Dieu puisse satisfaire à tous les péchés du monde, passé, présent et même à venir. Et donc, il peut y avoir comme un abus, si vous voulez, de cette miséricorde infinie de Dieu, mais avec les limites que l'Écriture souligne en disant qu'il ne faut pas abuser de la miséricorde de Dieu. Il faut bien sûr la recevoir avec infiniment de respect, infiniment de sentiments de gratitude, mais évidemment ne pas en abuser, comme dit le livre du Siracide. La grandeur de Dieu qui se livre restera toujours pour nous un très grand mystère donc, de foi pour continuer à cheminer dans ce sentiment d'être totalement dépendant, à tel point qu'au numéro 604, on nous dira: en livrant son Fils pour nos péchés, Dieu manifeste que son dessein sur nous est un dessein d'amour bienveillant qui précède tout mérite de notre part. Ce n'est pas nous qui l'obtenons, c'est Jésus qui obtient tout, mais il nous donne le grand honneur de pouvoir participer au mérite de Jésus en nous offrant nous-mêmes. Et le catéchisme rappelle donc ce texte de saint Jean que j'évoquais. En ceci consiste l'amour: ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés, et on peut ajouter, et pour les péchés du monde entier. Donc c'est ça qui est extraordinaire. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Et pour nous, non seulement les écrivains de l'époque de Jésus, les apôtres, mais nous, le corps du Christ, et tous ceux qui finalement s'y rattachent, tous ceux qui sont en lien avec ce corps du Christ, qui sont orientés vers ce Christ, qui sont attirés par lui et qui ne refusent pas cette adhésion au Christ. Donc Dieu, bien sûr, peut donner sa grâce au-delà des limites visibles de son propre corps. Il est plus grand puisqu'il est infini. On retrouve toujours par derrière cette infinité de Dieu.
Donc il faut enlever cette image que nous pourrions avoir. Dieu l'a fait pécher pour nous, l'a façonné comme une accumulation de tous les péchés du monde. Ce n'est pas ça que Dieu fait. C'est que Dieu, par amour, dans ce que fait le Christ, il entre dans le sacrifice par amour pour nous qui nous libère du péché.
Exactement. Il faut vraiment développer la formule et ne pas la regarder dans ces formules typiques d'un rabbin juif qui parle d'une manière ramassée. Mais probablement, il l'a déjà longtemps expliqué par oral au moment où il est à Corinthe. Et quand il fait sa lettre, évidemment, ça va de soi parce que les Corinthiens ont encore ces paroles dans leur oreille. C'est pour ça que la tradition orale est si importante, si vous voulez. Et c'est une énorme erreur de dire « sola scriptura » indépendamment de la tradition orale. Et cette tradition orale doit être toujours supposée pour bien la comprendre. Sinon, on part tout de suite dans le décor. Nous avons là la preuve manifeste de la nécessité de la tradition orale.
Eh oui, oui. Merci, frère Édouard. Cela éclaircit bien une expression qui est quand même assez souvent
mal comprise.
Et mal comprise, oui.
Merci.